Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Soccer love.
Sometimes may be good, sometimes may be shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h-21h, c'est FAC. 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benstein en onde avec vous pour la prochaine heure, puisque aujourd'hui, on a une heure d'émission, comme toutes les émissions. La semaine dernière, je n'étais pas là, j'avais des empêchements, mais cette semaine, je suis bien là et je devrais l'être également la semaine prochaine et l'autre d'après, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je veux vous remercier tout d'abord d'être là, parce que vous faites l'émission, comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas, on est écouté par combien de personnes. Mais je sais très bien que lorsqu'il y avait des sortes de sondages pour savoir quelle émission était écoutée, à l'époque où est-ce que j'avais l'émission Soccer Love, c'était une des plus écoutées. Et je vous remercie de ça parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est écouté. Et si vous ne nous écoutez pas régulièrement et puis vous êtes tombé sur notre émission à l'heure actuelle, eh bien j'ai simplement envie de vous dire que c'est une émission qui parle de soccer et de sport, mais pas des sports mainstream. Ici, on ne parle pas du Canadien de Montréal, on ne parle pas des Alouettes, on ne parle pas de la NFL, on parle du sport un peu plus underground et mis à part le CF Montréal, parce que le CF Montréal, évidemment, c'est l'équipe de soccer au Québec et elle n'est pas si médiatisée que ça, donc ça lui prend un peu plus de couverture médiatique et comme c'est ma passion, ben, je la partage avec vous. Donc, pour commencer cette émission, on va parler un peu Ligue espagnole, on va parler Ligue des champions, on va parler également la Coupe anglaise. Et on va commencer l'émission dans quelques secondes par parler du vert et or de l'Université de Sherbrooke, mesdames et messieurs. Ensuite, on va parler du CF Montréal qui recevait le Philadelphia Union pour le match d'ouverture du côté du Stade olympique avec une belle petite foule. On va en parler tout à l'heure. Et on va terminer l'émission avec mon expérience du côté de la LHJMQ dans les villes de Sherbrooke, évidemment, parce que j'ai vu le Phoenix de Sherbrooke contre l'Océanique de Rimouski il y a de ça environ deux semaines. Et j'ai été voir vendredi dernier l'Armada de Blainville qui recevait le Drakkar de Bécomo. Donc on va parler de mes expériences comme média du côté de la LHJMQ. Et également, on va surtout parler de la fin de saison qui s'amène parce que les playoffs commencent très bientôt. Et donc, on va parler de ça avec vous. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, on va féliciter encore une fois le vert et or de l'Université de Sherbrooke, volleyball masculin, parce qu'ils sont champions RSEQ du Québec. Ils ont gagné le titre de champion de la conférence du Québec, et donc ça, c'est pas rien, c'est un titre. D'ailleurs, c'est la seule bannière qui a été ramenée par une équipe du Vert et Or cette année, en sport d'équipe, bien entendu. Et le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke était une machine, tout simplement, au niveau québécois et au niveau canadien. Elle n'a pas été mauvaise non plus, puisqu'elle s'est rendue en finale, mesdames et messieurs, du championnat canadien de volleyball masculin. Mais malheureusement, ça a été une défaite contre Trinity Western par la marque de 3-7 à 0. Ils ont fait leur mieux, évidemment, le vert et or de l'Université de Sherbrooke, mais l'université d'en face était très forte. Et comme on le sait, le volleyball est très, très, très populaire et les équipes de l'Ouest du Canada sont très, très bonnes. Donc, l'année dernière, le Vert et Or avait terminé troisième du côté du championnat canadien. Donc, c'était une médaille de bronze. Et cette année, eh bien, on termine deuxième puisque, évidemment, on a pu aller en finale et donc perdre ce match 3-7 à 0 contre les Spartans, les Spartans de Trinity Western. Trinity Western, qui en passant est une université privée du côté de Richmond et Langley en Colombie-Britannique. Et donc, ils ont remporté ce match-là par 3-7 à 0, comme je viens de le mentionner. Et du côté des meilleurs pointeurs, côté Sherbrooke, on a eu avec Johan David avec 11 points. On a eu Elliot Collard avec 5.5. Ça a été les meilleurs. Et du côté, évidemment, de Trinity Western, eh bien, on a eu 12 points pour Brody Hoffer et 17 points pour Jesse Elser. Et donc, c'est 52 points à 30 au total pour l'Université Trinity Western. Les sets ont été gagnés de la façon suivante. Donc, premier set, 25 à 16. Deuxième set, 25 à 20. Et troisième set, ben 25 à 15. 3-7 à 0. Donc, ça a été très rapide, malheureusement, pour le vert de l'Université de Sherbrooke. Et pour nous, puisqu'on est fans, évidemment, on représente l'Université de Sherbrooke avec notre radio. Et donc, c'est important d'en parler. Eh bien, on n'aura pas de titre de champion canadien cette année, tout sport confondu, mais ça n'est que partie remise parce que j'ai de l'espoir envers cette équipe de volleyball masculin du Verreor de l'Université de Sherbrooke. Je veux prendre une petite minute également pour mentionner les joueurs qui ont connu une très belle saison du côté de l'Université de Sherbrooke. Volleyball masculin toujours. Je vais vous les nommer. Donc, numéro 1, Simon Dupuis-Coutts, qui étudie en administration. Antoine Ravet, également en administration. Jonathan Portelance, numéro 4, qui étudie en enseignement de l'EPS. L'EPS, je ne sais pas c'est quoi, mais je le mentionne quand même. Zachary Hollands, numéro 5, qui étudie en génie électrique. Johan David, numéro 6, qui étudie en informatique de gestion. Zachary Moisan, le 7, qui étudie en enseignement des maths. Elliot Collard, qui étudie en économie finance. Julien Vanier, multidisciplinaire. Jérémy Doyon, kinésiologie. Sébastien Lapensée, multidisciplinaire. Sacha Labbé, génie informatique. Guillaume Rivet, multidisciplinaire. Lucas Gagnon, génie robotique. Julien Ouellet, numéro 18, microbiologie. Charles-Eugène Bonin-Roy, politique appliquée. Et Maxime Lemieux, droit commun law. Donc voilà, common law. Donc félicitations à ces joueurs-là. Vous avez fait honneur évidemment à notre université, à la ville de Sherbrooke, à l'Estrie par votre performance tant au RSEQ qu'au championnat canadien parce que quand même, ils ont quand même gagné les quarts de finale là, et les demi-finales pour pouvoir se rendre en finale du championnat canadien. Donc voilà. Maintenant, pour changer de sujet, après le Verreor, juste vous mentionner que le Real Madrid a perdu le Classico, donc le match contre le FC Barcelone, qui est un des matchs les plus importants, évidemment, au monde. Et en Espagne, c'est le plus important. Avec une victoire, le FC Barcelone pouvait s'éloigner à 12 points du Real Madrid. Donc, ce qui fait en sorte que ça serait pratiquement impossible pour le FC Barcelone de ne pas être champion. Et si le Real gagnait, eh bien, le Real se rapprochait à 6 points du FC Barcelone, ce qui était encore jouable. Et malheureusement pour le Real Madrid, eh bien, ils ont perdu 2 à 1. Ils ont mené pourtant 1 à 0 avec un but contre son camp de Araujo, le défenseur de l'Uruguay. Et ensuite, évidemment, ben, le FC Barcelone a marqué 2 buts avec un but de Franck Kessié en fin de match, environ vers la 90e minute. Ce qui fait en sorte que le Real Madrid perd 2 à 1 contre le FC Barcelone. Et donc, ils seront très probablement deuxième du championnat espagnol et donc ne gagneront pas un trophée de champion de la Ligue espagnole cette année. Également, tirage de la Ligue des champions, on connaît ce qui va s'affronter en quart de finale et on sait évidemment dans l'éventualité de demi-finale, on sait qui s'affrontera, bien entendu. Donc, on va commencer par le premier tirage. Évidemment, on a eu le Real Madrid qui va jouer contre Chelsea. C'est pas un tirage facile pour aucune des deux équipes, honnêtement, si vous me demandez mon avis. Oui, Chelsea, c'est pas flamboyant ces derniers temps, mais ils ont quand même été en mesure de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, qui, honnêtement, n'était pas non plus la meilleure équipe du tournoi, loin de là. Et du côté du Real, bien, on a une saison difficile. On a gagné la Ligue des champions l'année dernière. Et pour répéter l'exploit, là, ça serait incroyable. Donc, honnêtement, dans ce match-là, malgré l'expérience du Real Madrid, je pense que les deux équipes ont un coup à jouer. Et je ne serais pas du tout surpris si, évidemment, Chelsea remporte ce match-là et se qualifie pour la demi-finale. Et en même temps, je me dis de l'autre côté que le Real Madrid, maintenant qu'il est presque éliminé de la Ligue espagnole, ça va être impossible pour eux de remporter le championnat espagnol. Ils vont mettre évidemment toute leur énergie en Ligue des champions et donc ça sera difficile pour Chelsea. On peut voir ce quart de finale des deux côtés. Honnêtement, j'ai hâte de voir évidemment le premier match Deuxième match, on a le choc, le gros choc évidemment de la Ligue des Champions. C'est Manchester City contre le Bayern Munich. C'est le clash. C'est les deux équipes favorites évidemment qui restent du côté de la Ligue des Champions, comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, ont été éliminés de la Ligue des Champions. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que Manchester City, ça pourrait être leur année, parce que le FC, le Bayern Munich est une très grande équipe, c'est clair. Par contre, ils ont un peu de difficulté dans le championnat allemand et Manchester City, ça fait tellement d'années qu'ils attendent de gagner la Ligue des Champions. Et s'ils peuvent éliminer le Bayern Munich, ils auraient une chance et ils seraient probablement le favori pour remporter la Ligue des Champions. Et les deux gagnants de ces deux matchs-là, donc le Real et Chelsea et Manchester City-Bayern, vont s'affronter. Donc on pourrait avoir très, très, très possiblement en demi-finale un Real Madrid contre Manchester City ou contre le FC Bayern Munich. Donc, c'est un gros clash. Déjà à l'avance, là, on s'entend que ça va être un clash. De ce côté-là, ça va être très, très, très difficile de passer en finale. De l'autre côté, les deux autres quarts de finale, mesdames et messieurs, nous avons trois équipes italiennes sur quatre. L'Inter de Milan qui va jouer contre le Benfica du Portugal. Benfica qui est en forme cette année. Ils seront champions portugais très probablement. Et en plus de ça, ils jouent très bien. Ils ont terminé devant le Paris Saint-Germain dans leur groupe de Ligue des Champions. Et là, ils viennent d'éliminer le club Bruges là, en ayant marqué énormément de buts. D'ailleurs, d'une façon très facile pour eux. Donc, le match, évidemment, est ouvert aux deux équipes, l'Inter de Milan et Benfica du Portugal. Et l'autre et dernier quart de finale, eh bien, c'est l'AC Milan qui va recevoir, et qui va se déplacer aussi contre Naples. Naples, cette année, qui est une... probablement l'équipe sensation de toute l'Europe. Ils ont 20 points d'avance en championnat italien et donc ils sont favoris pour remporter le championnat italien. Et pourquoi pas faire un doublé en Ligue des Champions? Eux qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, ils ont déjà gagné la Coupe, l'équivalent de l'Europa League là, quand Maradona était là, la Coupe UEFA. Mais la Ligue des Champions, ils ne l'ont jamais gagné. Et donc pour eux, contre l'AC Milan, ça va être un clash parce que c'est le nord de l'Italie qui affronte le sud de l'Italie. Ça a toujours un peu une saveur spéciale. C'est un match que je vais sans doute essayer d'aller voir dans un café italien si la journée, la date et l'heure est propice à cela. Mais je pense que le Napoli va passer ce match-là, ce quart de finale-là. Et donc, si vous me demandez mes prédictions à l'heure actuelle, je vous dirais qu'une demi-finale, ça sera Naples contre Benfica d'un côté. Et de l'autre côté, ce sera le Real Madrid contre Manchester City. Et je suis fan du Real, mais je l'avoue honnêtement, là, je ne pense pas que le Real gagnera cette année. Et donc, pour moi, la finale sera Manchester City contre Naples. Et Naples sera champion européen de la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Et que c'est beau quand on rêve, hein? C'est beau rêver. Et pour terminer, avant d'aller en musique, je vais juste vous annoncer que la Coupe anglaise, la FA Cup, Football Association Cup, on est déjà rendu aux demi-finales et encore, il y a deux géants qui sont là, il y a deux aussi petits poussets. Donc on a Brighton contre Manchester United, ça sera en demi-finale. Et de l'autre côté de la demi-finale, eh bien, nous avons Sheffield United qui va jouer contre Manchester City. Vous l'aurez compris, une finale très probablement entre Manchester United et Manchester City. Quoique Manchester United joue contre Brighton et Brighton n'est pas une équipe facile à jouer. C'est une équipe de Premier League quand même. Du côté de Manchester City, on affronte une équipe là, de deuxième division anglaise. Donc, il y a plus de chances que Manchester City se rende en finale. Ça serait très, très, très surprenant de les voir perdre en demi-finale contre Sheffield. Mais côté Manchester United, c'est pas impossible. Ils sont favoris. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans le monde du ballon rond. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette première partie de l'émission. Maintenant, on va aller écouter la chanson d'Amé Laoni, Un fil, et on revient après ceci en vous parlant du CF Montréal. Bonne écoute.
Chaviré de la chance à la rue. Non, Le train qui s'arrête et je ne bouge plus. La cible, je tombe des nues. Dors, c'est le grand mar magique. Pour l'instant, je me protège. Je me sens bien, ou je n'en sais rien. Demande à l'autre, je sursaute. Je dois l'apprivoiser, mon hiver fragile.
Donc, c'était Amé Laoni et sa chanson « Un fil ». Vous écoutez toujours Soccer Sport sur les ondes de CFAC 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissem Bensta avec vous en ondes jusqu'à 21h ce soir. Donc, maintenant, on va parler du CF Montréal. Écoutez, le CF Montréal recevait à son quatrième match dans la saison le Philadelphia Union, qui est une très bonne équipe. C'était la meilleure équipe de l'Est l'année dernière, et cette saison, c'est quand même une très bonne équipe, et on l'a vu du côté du Stade Olympique. Je ne vais pas vous donner le score tout de suite, mais simplement pour vous dire tout d'abord que le CF Montréal ne peut pas jouer ses matchs de début de saison à domicile à cause du climat. Pourtant, Toronto joue un peu plus tôt que nous, évidemment, à Vancouver également. Là, la météo à Vancouver, c'est pas pareil. Mais nous, généralement, notre premier match à domicile, là, c'est-à-dire au stade Saputo, c'est généralement en avril. Et cette année, ce sera le 15 avril, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être que c'est une décision du staff du CF Montréal. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que honnêtement, le stade olympique, oui, on peut jouer au stade olympique, mais c'est pas très joli, pour être honnête avec vous, là. Pour y avoir été, c'était ma première accréditation là-bas. Évidemment, je remercie encore une fois le CF Montréal de m'avoir accrédité pour la saison. C'est un honneur pour moi et je suis très content d'amener CFAC au stade olympique et au stade Saputo pour plein de matchs cette année du côté de Montréal. Mais le stade olympique, honnêtement, ça fait un peu pitié. Quand on rentre, là, il y a du béton partout. Ça sent le béton, ça sent les tapis. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là, c'est pas, l'éclairage est so-so. Le son est so-so. C'est un flop. Honnêtement, c'est un flop. Donc ça, c'est dit. Maintenant, on a parlé du stade olympique. Maintenant, on va parler du match. Le CF Montréal a gagné le match 3-2. Alors qu'il perdait 2-1. Donc, le CF Montréal a marqué avec des buts de Romel Kyoto tout d'abord sur un tir de penalty, sur un penalty shot, parce que il y a eu une main d'un défenseur du Philadelphia Union. Et donc, ça a été un tir de pénalité pour Romel Kyoto. Et Romel Kyoto l'a converti. Il a marqué son premier but là à peu près en une dizaine de matchs avec le CF Montréal, si je compte la saison dernière. Et donc, ça, c'était important là, qu'il marque ce but-là, puisque ça fait très longtemps qu'il n'a pas marqué. Puis, c'est le meilleur joueur offensif de cette équipe. Il n'y a aucune discussion là. Il ne peut même pas discuter par rapport à ça. C'est de loin le meilleur joueur offensif du côté du CF Montréal. J'ai pas dit le meilleur finisseur. J'ai dit le meilleur joueur offensif parce qu'évidemment, il peut mettre des buts, mais il peut également créer des actions. Puis il est rapide, il est technique, il est habile techniquement, il a des bonnes passes, etc. Puis il peut jouer de la tête également. Donc, il a marqué 1-0. Ça, c'était au tout début du match, à la 3e minute. Ensuite de ça, à la 46e minute, Michael Ure a fait 1-1. Et à la 60e minute, il a marqué son deuxième but pour faire 2-1 avec des passes de Daniel Gazdag les deux fois. Évidemment, on sait comment ça fonctionne du côté de Philadelphia Union, c'est tout le temps les trois amigos. Là, c'est Michael Ure, Julian Carranza et Daniel Gazdag qui sont évidemment les trois leaders offensifs de cette équipe de très, 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 très loin. Ça a été un match quand même chaud parce que après le 2-1, 9 minutes plus tard, à la 69e minute, Julian Carranza, l'Argentin, prend un deuxième carton jaune. Donc, c'était son deuxième carton jaune en 11 minutes. Le premier carton jaune à la 58e minute, c'était un carton jaune pour des fautes répétées. Ça n'est pas que la faute qu'il a fait méritait un carton jaune nécessairement, c'est qu'il avait commis plusieurs fautes durant le match et donc l'arbitre lui a décerné un premier carton jaune. Mais après ça, à la 69e minute, c'était évidemment une faute claire qui mérite un carton jaune et donc carton rouge. Et là, le CF Montréal se retrouve avec l'avantage d'un homme au Stade Olympique, à leur quatrième match. Puis jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas marqué un seul but, mis à part le tir de pénalité. Donc, ils n'avaient pas marqué un seul but dans le jeu. Parce qu'on s'entend qu'un tir de pénalité, là, c'est un... c'est pas dans le jeu, là. C'est-à-dire, c'est un coup de pied arrêté, le ballon est sur le point, puis tu la... Vous savez comment ça fonctionne, là. Tu la mets dans le but ou pas. Mais donc, il n'y a pas de création sur un tir de pénalité. C'est juste de la frappe et de la précision et un peu de chance de temps en temps. Et donc, mis à part ça, eh bien, le CF Montréal n'avait pas marqué de but. Et là, on approche des minutes de la fin. On fait quatre changements du côté de Hernan Losada, l'entraîneur argentin du CF Montréal, qui d'ailleurs parle français. On fait rentrer Ibrahim Sounoussi pour Rida Zohir. On fait rentrer Chinonso Ofor pour Mason Toy. On fait rentrer Broguiar pour Lapalainen. Et on fait rentrer Dorkelsen pour Kamal Miller. Donc, quatre changements d'un coup, là. Et là, boum! Magie! Namdi, Chinonso Ofor fait 2-2 à la 90e minute. On va regarder le but du côté de l'avare pour la reprise vidéo. On annule le but. Et finalement, on va re-regarder l'analyse vidéo avec l'avare, avec la reprise. Et on accorde le but. Ça, c'était du jamais vu. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'un but qui est annulé par l'avare pour ensuite, 30 secondes plus tard, être concédé. Donc, le but a compté. Donc, ça l'a fait 2-2 pour Chinonso Ofor. Et ensuite de ça, à la 98e minute, donc dans les arrêts de jeu, Romel Kyoto qui marque son deuxième but sur un centre parfait de Chouanière. Chouanière, d'ailleurs, qui, sur le premier but, là, sur le penalty qui avait été concédé par Philadelphia, c'est lui qui avait frappé le ballon et qui avait dévié sur la main du défenseur. Donc, il a connu encore une fois un très grand match. Mais évidemment, Romel Kyoto, lui, marque ses deux buts. Et donc, on considère que Romel Kyoto est l'homme du match, du moins sur sofascore.com. Mais évidemment, bon, deux buts dans un match, c'est très, très important, surtout quand tu joues contre Philadelphia Union et dans le contexte. Et donc, 3-2 pour le CF Montréal, qui remporte enfin sa première victoire et qui remporte sa première victoire de façon spectaculaire, comme l'année dernière contre Columbus, hein, on revient de l'arrière, chez nous, au Stade Olympique, en jouant à 11 contre 10. Et c'est pas parce qu'on joue à 11 contre 10 que nécessairement, là, on va marquer deux buts et on va gagner. Plein de fois, quand tu joues en supériorité numérique avec des équipes qui contrôlent le match, c'est difficile et tu ne gagnes pas, même si tu as l'avantage d'un homme. Et nous, on a été en mesure de le faire du côté du CF Montréal. Et on a été un peu chanceux aussi parce que Philadelphie a manqué beaucoup d'occasions de contre-attaque parce que c'est une équipe là que dès qu'ils vont en contre-attaque, Je ne sais pas s'il y a une autre équipe meilleure que eux dans la ligue, dans toute la ligue de la MLS, mais dès qu'il y a une contre-attaque, eh bien, ils foncent, puis c'est très vertical, là. Ça ne joue pas latéral, ça joue vertical vers l'avant. Et avec les trois joueurs que j'ai mentionnés plus tôt, c'est un festin. C'est un festin de les voir aller, puis c'est très beau. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui sont évidemment très bien entraînés avec leur entraîneur là, du côté de Philadelphia Union, qui est là depuis 2014, M. Jim Curtin. On va l'écouter tout à l'heure. Je lui ai posé une petite question en conférence de presse. Et donc, ce match-là, bien, ça nous permet d'avoir nos trois premiers points de la saison, et ça nous permet de marquer nos trois premiers buts de la saison surtout. Et donc, avant, on avait zéro but en trois matchs. Et là, on a trois buts en quatre matchs. Ce qui est quand même acceptable. Honnêtement, là, je vous le dis, c'est quand même acceptable. Et à l'heure actuelle, avec quatre matchs joués, on a trois points. Puis la neuvième place qui permet évidemment de se qualifier peut-être pour les playoffs, on est à deux points. Évidemment, la saison est très, très longue. Et puis nous, on n'a pas joué nos matchs à domicile, là. On a plein de matchs à domicile qui nous attendent. Et c'est bien qu'on ne joue pas beaucoup de matchs au Stade Olympique, même si on a fait la victoire, parce que le Stade Saputo, quand il fait beau, c'est magique. Et nos fans, le terrain, l'été, on ne veut pas jouer. Moi, honnêtement, si vous m'aviez dit, vous me donnez le choix de jouer nos trois premiers matchs à l'étranger pour en jouer un au Stade Olympique, puis après en avril en jouer beaucoup à la maison quand il va commencer à faire beau, j'aurais signé. Je n'aurais pas voulu commencer avec trois matchs à domicile au Stade Olympique. Parce que le Stade Olympique, honnêtement, je trouve qu'il n'a pas... Il a perdu beaucoup de son lustre, beaucoup de... C'est comme s'il n'avait pas d'âme, le Stade Olympique, je sais pas. De l'extérieur, il est très beau. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est moche. C'est moche avec un M majuscule, mesdames et messieurs. Mais certaines personnes ont le droit d'aimer ça, là. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les bancs sont bleus et jaunes. Je ne sais pas si ça a été comme ça quand ça s'est construit dans les années 60 pour les Jeux olympiques d'été à Montréal. Peut-être que oui, mais bleu et jaune, je ne sais pas pourquoi le jaune. Bleu, on peut penser évidemment à la province du Québec, mais le jaune, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si quelqu'un connaît la réponse, ben, envoyez-moi un courriel à soccerlove à commercial CFAC. À soccerlovecfac@gmail.com. Donc, maintenant, pour vous, on va mentionner le 11 initial qui a remporté la victoire, parce qu'il faut les nommer. On a des blessés. Samuel Piette n'était pas là, mais après, il a téléphoné au 91.9 FM, qui est le diffuseur du CF Montréal. Et puis, il les a quand même remerciés pour leur travail. Ça montre la qualité de l'homme, et c'est pas pour rien que c'est un capitaine et c'est quelqu'un qui est respecté. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui généralement aime tout le monde, puis je fais confiance à tout le monde, puis tout le monde est une bonne personne, je ne suis pas comme ça. Mais Samuel Piette, pour ne pas apprécier la personne de Samuel Piette, il faut avoir un problème. Parce que honnêtement, c'est un homme très gentil, très disponible, très poli. Puis ça paraît qu'il prend son travail et le brassard de capitaine. Il prend ça très sérieusement, puis il est très fier évidemment de jouer pour l'équipe de sa ville et de sa province. Donc voilà. Donc le 11 initial qu'on avait pour ce match-là, on avait Jonathan Serrois dans les buts qui a connu une bonne performance. Défense centrale à 3, Waterman, Camacho et Kamal Miller. Les deux pistons, on avait Lassie Lapalainen à droite et Mathieu Chouanière à gauche. Mathieu Chouanière qui est un joueur d'ailleurs qui peut jouer à toutes sortes de positions. Il peut jouer en avant, il peut jouer en arrière, il peut jouer au milieu, il peut jouer piston. Et l'entraîneur en a parlé d'ailleurs en conférence de presse, il apprécie ça. Et moi j'apprécie également Mathieu Chouanière, parce que c'est un joueur très intelligent qui ne lâche jamais. On le sait très bien d'ailleurs, dans un des matchs, là, je crois que c'était le premier ou le deuxième, il avait fait une grosse erreur qui avait coûté un but. Et puis là il revient sur samedi soir, titulaire contre une des meilleures équipes de la Ligue. Et il cause un penalty pour le CF Montréal qui est converti ensuite par Romel Kyoto. Et évidemment, il fait une passe incroyable sur un très beau centre pour Romel Kyoto pour son but de la tête et la victoire 3-2 pour le CF Montréal. Donc, il a joué. Milieu de terrain, on avait Rida Zourir et Victor Wanyama, le capitaine. Un peu plus à l'avant, on avait Nathan Saliba. Et les deux attaquants, on avait Mason Toy et Romel Kyoto. En pointe. Côté Mason Toy, ça va moins bien. Honnêtement, à ce rythme-là, je ne pense pas qu'il va jouer très longtemps comme étant titulaire avec l'équipe. Si vous me demandez mon avis, là, je regarde. Écoutez, Mason Toy, là, son dernier but, c'est le 29 juin 2022, 2 buts contre Seattle. Et par la suite, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est 19 matchs sans avoir marqué un seul but. Et non seulement, là, c'est pas un but, mais il n'y a pas non plus de passe décisive pour Mason Toy, pour l'attaquant américain de 24 ans. Et donc, pour avoir vu certains de ces matchs, c'est vrai que Mason Toy fait des efforts. Il a eu beaucoup de chance. Il a été malchanceux la saison dernière, c'est vrai. Mais quand même, ça fait trop de matchs qu'il n'a pas marqué. Et là, le point que je veux amener, c'est qu'on a un joueur qui s'appelle Chinonso Ofor. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre titulaire? Parce qu'à chaque fois qu'il est entré, il fait des différences. S'il ne marque pas, il libère des espaces. Et physiquement, pour surveiller Chinonso Ofor, tassez-vous de là. Parce que c'est pratiquement impossible. Et donc, moi, j'aimerais bien voir un partenariat en attaque. Chinonso Ofor, Romel Kyoto, ces deux attaquants qui pourraient être complémentaires parce que Romel Kyoto, c'est pas un joueur du tout. C'est un joueur, évidemment, qui peut marquer dans la surface, mais c'est un joueur aussi qui peut centrer, qui peut aller à gauche, à droite un peu. Et Chinonso Ofor, lui, c'est un joueur vraiment de surface. C'est pas un dribbleur. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne les essaye pas ensemble? Ça serait bien, ça serait beau à voir, puisque le CF Montréal n'a rien à perdre, là, avec un joueur qui n'a pas marqué en près de 20 matchs, ni a fait une passe décisive. Donc, le prochain match, ça sera le 1er avril, et ça va se passer du côté de Vancouver. Est-ce que Chinonso Ofor sera titulaire? Peut-être. D'ailleurs, il faut le mentionner aussi, Romel Kyoto va aller jouer avec son pays, le Honduras, si je ne me trompe pas, contre le Canada, d'ailleurs, à Toronto. Donc, on sait que Romel Kyoto, des fois, il y a des petites blessures après le voyage avec l'équipe nationale. Non pas que ce soit de la faute du Honduras ou quoi que ce soit, c'est juste de la malchance. Mais il faudra voir, j'espère le revoir en forme et en uniforme, surtout contre Vancouver ce 1er avril. Voilà, donc belle victoire du CF Montréal. On espère que Romel Kyoto va continuer à marquer des buts parce qu'on a besoin de lui. Comme je le répète encore une fois, c'est notre meilleur attaquant. Maintenant, on va aller écouter en conférence de presse. J'ai posé quelques questions à l'entraîneur du Philadelphia Union qui m'a répondu. D'ailleurs, on le remercie parce qu'il n'a aucune obligation de répondre. Et j'ai posé également des questions à Wanyama et à Jonathan Sirois. Donc, on écoute ça et on revient.
Was it the first time you witnessed a goal that was not a goal and then was a goal?
I've never seen anything like that in my life. So I actually think Joe might have kicked the ball, which means it's back in play and there is no chance to look at it. I have seen it. Kai does keep them on sides. Within all the chaos, I had no idea what they were even looking at because they don't have to explain it for some reason. So I thought they were actually looking at a possible foul on Glesnes because I thought on the initial run, Glesnes and the player get tangled up, similar to the Cincinnati Seattle play where they throw the guy to the ground and the guy winds up scoring. They look at it, they review it. That's what I thought happened. But then they claim they were looking at offsides. And obviously, Kai does keep him on at the bottom of the screen, if that's what they were even looking for. I don't know what they were looking for. So again, you have to ask Nima. Oh, but that's right, they don't have to answer any questions. I forgot about that. So.
Hi, Victor, congratulations for the win. Ofor scored an important goal today. How important is he for you guys?
You can see Ofor brings a different style of play. It's what we needed today as well. You know, we needed also someone who can beat up the defense a little bit. And he came on and he showed, you know, he's strong, he beat up the defense and they open up for us a little bit. So he's an important player as everyone else. And today he showed that, you know, he can deliver when needed. So we're happy for him.
C'était Jim Curtin, l'entraîneur de Philadelphia Union, qui est là depuis 2013-2014 avec le club. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour répondre aux questions et comme vous avez pu le constater, pour ceux qui comprennent l'anglais, il a tout simplement dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose du genre, c'est-à-dire un but être annulé par la VAR pour ensuite être donné en moins de 2-3 minutes. Donc, il y a probablement une erreur du côté du VAR. Est-ce que le fait qu'on jouait du côté du stade olympique et qu'on était local, ça l'a influencé? On ne le sait pas, mais de toute façon, après avoir vu les reprises, là, le but était valide. Donc, si le but avait été annulé, ça aurait été une erreur grossière de la part de la MLS. Puis, encore une fois, là, c'est des êtres humains, les entraîneurs et ceux qui travaillent à la VAR. L'important, c'est que l'erreur a été rectifiée. Puis également, il a eu un peu des mots durs envers les arbitres. Là, il a dit qu'on n'avait pas le droit de leur poser des questions d'une façon un peu sarcastique. Donc voilà pour Jim Curtin, l'entraîneur dans la défaite de 3-2 de son club contre le CF Montréal du côté du Stade Olympique. Et ensuite, on a eu le capitaine de l'équipe, Victor Wanyama. Victor, qui a eu des bons mots pour Chinon Sofer, mais il a dit également que tous les joueurs du club étaient importants, là, je tiens à le préciser. Puis qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Sofer? C'est qu'il a dit qu'on avait besoin de quelqu'un qui est physique pour un peu user les défenseurs centraux ou même les latéraux là, des équipes. Quelqu'un qui pèse sur les défenses comme lui, et ça l'a été très important pour le club, et ça l'amène quelque chose de bien du côté du CF Montréal. Et moi, comme je vous l'ai dit plus tôt là, dans l'émission, j'ai comme un peu un... Depuis qu'il est venu au camp d'entraînement, c'est-à-dire aux entraînements l'année dernière au stade au centre Nutrelet, pardon, pour s'entraîner avec le club, avant qu'il soit, je crois, échangé ou prêté à Chicago. Je l'avais vu, puis il m'avait impressionné par son physique. Évidemment, il est très grand, il est très costaud, il est très fort sur le terrain. Puis je m'étais dit, on pourrait peut-être lui donner une chance l'année prochaine. Et là, depuis que je l'ai vu quelques matchs, parce qu'il n'a pas été titulaire, il n'a jamais été titulaire avec le club en saison régulière, je me dis, peut-être qu'avec un Mason Toy qui ne marque pas en presque 20 matchs, pourquoi ne pas essayer pour un match Chinonso Ofor et Romel Kyoto ensemble? Je veux dire, si vous m'auriez dit que l'attaquant du CF Montréal, c'est Olivier Giroud ou Peter Crouch, j'aurais dit non, peut-être que ça ne marchera pas. Mais là, on a deux attaquants complémentaires. Là, c'est-à-dire qu'on a un qui peut dribbler, qui peut passer, qui est rapide, qui peut finir. Puis on en a un autre, évidemment, que lui, il doit jouer dans la surface, qui est très bon de la tête, qui est très bon dans les airs également, et qui peut finir et qui n'a pas peur de frapper le ballon avec sa tête. Parce que le but qu'il a marqué, honnêtement, il fallait mettre la tête, là, il fallait pas avoir peur de se faire blesser ou quoi que ce soit, parce que l'autre défenseur aussi y allait pour le ballon. Finalement, il n'y a aucune blessure, mais voilà. Donc, ça l'a bien été pour Chinon Sofer, qui nous a permis, en fait, de ramener 3 points à domicile du côté du Stade Olympique. Donc, le prochain match, comme je l'ai dit, c'est le 1er avril 2023. Il n'y a pas de match la semaine prochaine, tout simplement parce qu'il va y avoir des matchs internationaux. Et donc, ça va nous donner un petit break du CF Montréal. On va peut-être en parler un peu la semaine prochaine, mais beaucoup moins que cette semaine. Et parlant du CF Montréal au Stade Olympique, mesdames et messieurs, il y avait un total de 23 352 personnes dans le plus beau stade de toute la MLS, j'ai nommé le Stade Olympique. Vous voyez que c'est du sarcasme, évidemment. Mais il y avait quand même du monde, puis c'était quand même bruyant. Là. C'est sûr que la galerie de presse, nous, on était un peu plus haut. En fait, on était très haut là, comparé au Stade Saputo, donc on entend un peu moins les ultras et tout ça, mais on a pu les entendre. Là, puis à la fin, il y avait une ambiance de feu, parce qu'il faut le dire, là, le CF Montréal a souvent renversé la tendance. Il est souvent revenu de l'arrière pour gagner un match dans les arrêts de jeu. Là, on l'avait fait l'année dernière contre Columbus. Encore une fois, quand Columbus avait eu un carton rouge. Donc, il ne faut pas trop prendre de carton rouge contre le CF Montréal, même si des fois, on a eu des supériorités numériques en jouant 11 contre 10 et on n'avait pas gagné. Donc voilà, ça fait du bien. Maintenant, niveau MLS, qu'est-ce qui nous reste pour MLS? Parce qu'on a eu des matchs, pas que le CF Montréal, mesdames et messieurs. On a eu plusieurs matchs qui ont commencé. Ça a commencé le samedi, parce qu'il n'y a pas de match de MLS le vendredi généralement. Seattle Los Angeles FC 0-0. New England Revolution 1-0 contre Nashville, qui nous avait battu d'ailleurs. Gustavo Bou, c'est son but. Orlando City perd 2-1 à domicile contre Charlotte. Charlotte, évidemment, Kerwin Calder avec un but. Et également, on a un but de Enzo Copetti. Les New York Red Bulls s'imposent contre le club qu'entraîne aujourd'hui Wilfried Nancy, j'ai nommé le Columbus Crew. Il s'impose 2-1 les Red Bulls avec un but de Dante Van Zer et un but de Luquinhas. Côté Atlanta United FC contre Portland Timbers, ben ils ont gagné 5-1 avec notamment deux buts de Thiago Almada, un but de Caleb Willey et Giakoumakis, l'attaquant là, qui jouait du côté des Pays-Bas, le grec, qui est un très bon buteur. Et bien là, il a trouvé chaussure à son pied du côté de Atlanta. New York City FC s'impose 3-2 contre DC United. DC United, c'est le club qui est entraîné par Wayne Rooney, évidemment, légende du soccer anglais. Un but pour Santiago Gutierrez, un but pour Thales Magno et un autre but pour Thiago Andrade. New York City qui fait toujours bien les choses, là, c'est rare de les voir dans les bas-fonds du classement. C'est une organisation solide en MLS. Toronto FC, sans Lorenzo Insigne, s'impose 2-0 contre l'Inter de Miami avec un but de Marc-Anthony Kay et un but de Jonathan Osorio. Évidemment, Inter Miami qui avait connu un très beau début de saison avant ce match-là. Ils étaient 2 victoires, 1 défaite. Bien là, ils sont 2 victoires, 2 défaites. Avec 6 buts encaissés aussi, là, c'est un peu inquiétant pour eux. Saint-Louis continue sa très bonne saison. Eux qui sont à leur première saison à MLS, ils ont gagné 3-0 contre San Jose et ils sont premiers de la MLS avec 4 victoires en 4 matchs. Jouer. Chicago Fire Cincinnati, ça s'est terminé 3-3. Si vous me demandez mon avis, ce ne seront pas des équipes qui gagneront le championnat de MLS. FC Dallas s'impose 2-1 contre Kansas City avec un but de Jesus Ferreira et un but de Alan Velasco. Houston Dynamo bat ses rivaux du Texas Austin FC 2-0 avec un but de Hector Herrera, le Mexicain, et Amin Bassi sur tir de pénalité. Et pour terminer le tout, on a Minnesota United qui s'est imposé 2-1 du côté du Colorado. Ça aussi, Minnesota, là, ce ne sera pas une équipe qui sera championne de MLS, je vous l'annonce tout de suite. Et le dernier match, eh bien, ça a été Los Angeles Galaxy contre Vancouver Whitecaps. 1-1 avec un but de Calvin Leardam pour Los Angeles FC et Tristan Blackmon pour le côté de Vancouver Whitecaps, pour une des 3 équipes canadiennes, bien sûr, que nous avons à MLS et nous sommes contents d'en avoir 3. Peut-être un jour nous en aurons 4, on verra. Le meilleur buteur du championnat de la MLS s'appelle Thiago Almada et il est argentin. Il joue avec Atlanta United et il a 4 buts. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite rubrique, du CF Montréal et de la MLS. Maintenant, on s'en va en musique et on revient après ceci. On va parler un peu LHJMQ, Ligue Junior Majeure de Hockey du Québec, mesdames et messieurs.
It's been a long time. On voulait soulever les montagnes. Être un héros for one time. Ça fait un bon bail. Elle, ça, c'est vraiment ma compagne. Et encore fois, a long time. J'ai tellement roulé de dingue que pour calculer le tout, j'aurais besoin de 11 comptables. Sous les projets, sous le néon, je me suis perdu dans le néant. J'ai la gorge sèche comme un désert. J'ai besoin de boire un océan. Plus la journée est belle, moins elle est longue. C'est un sport fumé quand tu fais le marathon. Jusqu'à un cookie dans le banc. C'est comme ça qu'on se nourrit normalement, non. Fume un ganja till my head's free. J'peux pas dire qu'on a une vie saine, non, non, non. Burning the green, faut que je respire. Marijuana dans mon système. Côté une 5-3, mais maintenant j'ai un pain. Smoke la marijuana, j'ai la tête dans les décombres. Les yeux plus gros que la panse. J'ai des questions mais pas de réponse. Sous chaque journée je me défonce. C'est pour ça que je me ganja, yeah. J'suis le guy one. J'ai roulé un king size, c'est le minimum. J'ai roulé 4 king size, did I did it wrong. J'ai fumé all day night, c'est le minimum. J'ai un jour et une montagne, yeah, yeah. Mais j'attends un modèle, yeah, yeah. Tu peux me catch sur ma hostel, yeah, yeah. Chaque jour est un bon vin, yeah, 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 yeah. Fume un ganja till my head's free. J'peux pas dire qu'on a une vie saine, non, non, non. Burning the green, faut que je respire.
C'était Fouki et sa chanson So, donc nouveauté francophone ici à Soccer Sport, bien sûr, sur les ondes de CFAC 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta en onde avec vous pour encore un peu moins de 10 minutes. On va parler maintenant LHJMQ, puisque j'ai pu assister à un match de l'Armada de Blainville-Boisbriand contre, évidemment, le Drakkar de Baie-Comeau, qui est une équipe de la LHJMQ. C'est une ligue très intéressante, la LHJMQ, parce que c'est une ligue qui offre du spectacle à beaucoup de villes moins grosses que Montréal ou, bon, à Québec, on a une équipe de la LHJMQ, mais pour beaucoup de villes qui sont un peu plus petites, avoir une équipe de la LHJMQ, c'est une attraction énorme. Et je veux nommer toutes les équipes qui ont une équipe, pardon, toutes les villes qui ont une équipe de la LHJMQ. Donc, on a Québec, on a Halifax, on a Gatineau, Sherbrooke, Victoriaville, Rouyn-Noranda, Moncton, Rimouski, Chicoutimi, Baie-Comeau, Shawinigan, Cap-Breton, Charlottetown, ça c'est dans les maritimes, Drummondville, Saint-John, Saint-John au Nouveau-Brunswick et non pas Saint-John du côté de Terre-Neuve, Blainville, Val-d'Or et Acadie-Bathurst. Donc on a des équipes à travers tout le Québec et les maritimes, excluant bien sûr le Terre-Neuve et Labrador. Et moi, j'ai pu voir l'Armada de Blainville, qui est une équipe quand même qui est nouvelle dans le circuit. Elle a été fondée en 2011. Ils jouent au Centre d'excellence Sport Rousseau. Ça, c'est l'aréna. C'est du côté de Boisbriand. Ça s'appelle l'Armada Blainville-Boisbriand. C'est un aréna qui compte une capacité de 3100 sièges, avec maximum 3250, là, si on peut mettre des personnes debout. C'est un club historique quand même, l'Armada de Blainville, parce que c'est un club récent. Ils sont entraînés par Bruce Richardson. Ils n'ont jamais gagné la Coupe du Président. La Coupe du Président, c'est le champion de la LHJMQ. Ils ne l'ont jamais gagné. Mais pour un club qui a été créé en 2011, ils ont fait les séries à chaque année depuis leur entrée dans la LHJMQ. Et en 2017 et en 2018, ils sont allés en finale de la Coupe du Président. En 2017, ils ont perdu 4 matchs à 0 contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Et en 2018, ils ont perdu 4 matchs à 2 contre le Titan d'Acadie-Bathurst. Et là, cette année, moi, j'ai été les voir vendredi contre le Drakkar. C'était un match qu'il ne fallait pas perdre et il ne fallait surtout pas perdre le match suivant le samedi contre la même équipe. J'ai nommé le Drakkar de Baie-Comeau. Et ils ont perdu ce match contre le Drakkar de Baie-Comeau. Et ce qui fait en sorte que maintenant, la participation aux séries éliminatoires n'est pas claire et elle n'est pas du tout garantie, parce que dans la LHJMQ, toutes les équipes participent aux séries éliminatoires, sauf les deux dernières au classement général. Et la dernière au classement général, c'est Acadie-Bathurst, qui ont 46 points, donc eux sont éliminés des séries éliminatoires de la Ligue junior majeure du Québec. Et là, parmi les trois équipes qui restent, il y en a une qui sera éliminée. Et à l'heure actuelle, toutes les équipes ont joué 66 matchs. Il reste 2 matchs à jouer pour chacune de ces équipes-là. Saint-John Sea Dogs, à l'heure actuelle, sont 18-17, sont 15e. Blainville, l'Armada, sont 16e. Et à l'heure actuelle, les Foreurs de Val-d'Or sont 17e. À l'heure actuelle, ce sont les Foreurs de Val-d'Or de l'Abitibi qui sont éliminés des séries éliminatoires. Ils ont 51 points. C'est un de moins que l'Armada de Blainville et 2 de moins que les Sea Dogs de Saint-John. Alors, si vous me demandez mon avis, là, ça risque de se jouer entre Blainville et Val-d'Or. Donc, ça pourrait être je ne sais pas combien de fois dans l'histoire du Québec ces deux villes ont été reliées, là, mais ça pourrait se jouer entre cette ville de l'Abitibi et cette ville, évidemment, de la couronne nord de Montréal. La mauvaise nouvelle pour l'Armada, c'est que l'Armada de Blainville va jouer ses deux derniers matchs contre la même équipe, c'est les Olympiques de Gatineau. Et les Olympiques de Gatineau, c'est la troisième meilleure équipe de la Ligue. Ils ont 100 points en 65 matchs. Donc, ils ont deux fois plus de points que l'Armada. Et Val-d'Or, eux, vont jouer leurs deux derniers matchs contre Rouyn-Noranda, qui est quand même qualifié pour les séries éliminatoires, mais c'est moins une puissance que Gatineau, ça va de soi, là. Et du côté les Sea Dogs de Saint-John, on va jouer un match notamment contre le Titan d'Acadie-Bathurst, qui est la dernière équipe de la Ligue. C'est la pire équipe de la Ligue de loin. Et donc, on pourrait penser que les Sea Dogs de Saint John vont au moins aller se chercher un petit point. Et donc, on va en parler la semaine prochaine parce que les séries vont commencer à la fin, pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. On va voir si l'Armada de Blainville va se qualifier pour les playoffs. Puis j'aimerais vraiment ça parce que, honnêtement, là, j'ai des accréditations pour l'Armada. Puis j'ai envie de vivre des séries éliminatoires du côté de l'Armada de Blainville. Puis surtout, comme on. J'en fais pas partie, là. Mais si l'Armada termine dans le dernier spot qui permet une place en séries éliminatoires, on va recevoir une grande équipe du côté du Centre d'excellence Sport Rousseau à Boisbriand, mesdames et messieurs. Donc maintenant, pour terminer le tout, j'ai parlé des équipes qui forment la Ligue. Je vais juste vous donner le classement. À l'heure actuelle, le classement, la meilleure équipe, c'est les Remparts de Québec qui sont entraînés par nul autre que Patrick Roy avec 103 points. Deuxième, Halifax avec 103. Troisième, Gatineau avec 100. Quatrième, le Phoenix de Sherbrooke avec 99. Vous avez une très belle équipe du côté de la ville de Sherbrooke. Je dis vous, parce que vous savez que mes émissions sont enregistrées à distance. Je ne suis pas à Sherbrooke. Mais je vous recommande fortement d'aller voir Joshua Roy et les joueurs magnifiques que vous avez du côté du Phoenix de Sherbrooke. Les séries éliminatoires vont commencer. Le Phoenix n'a jamais remporté, depuis qu'il s'appelle évidemment le Phoenix de Sherbrooke, la Coupe du Président de la LHJMQ. Et cette année, ils ont une chance et allez encourager votre équipe local, mesdames et messieurs. Meilleur pointeur de toute la ligue, eh bien là, ça brasse beaucoup parce qu'on a Jordan Dumais de Halifax avec 130 points en 61 matchs, Alexandre Doucet avec 109 points et Josh Lawrence avec 108 points. Ça, ce sont les trois joueurs de Halifax. Ensuite, on a Zachary Bolduc avec 105 points, Riley Kidney avec 103, Théo Rochette avec 102. Et du côté de Sherbrooke, c'est Jacob Melançon avec 94 points, le meilleur pointeur, et Joshua Roy avec 90 points, et ensuite Justin Gill avec 89 points. Fait à noter, c'est que Joshua Roy appartient au Canadien de Montréal, donc un jour, on l'espère, il aura sa chance dans la Ligue nationale de hockey. Qui sait, peut-être deviendra-t-il un très grand joueur dans la Ligue nationale de hockey. On lui souhaite, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec lui il y a deux semaines. Là, j'ai malheureusement pas pu vous la partager parce que l'émission de la semaine dernière a été annulée. Donc voilà, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir été là. C'est ce qui complète cette émission de Soccer Sport qui est diffusée tous les lundis soirs, 20h-21h, CFAC 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, avec nul autre que votre animateur de sport, j'ai nommé moi-même Wissem Bensta. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de CFAC. Et surtout, allez encourager votre équipe. Il y a un match demain soir, le dernier match de la saison au Palais des Sports Léopold Drolet. Pour une vingtaine de $, vous pouvez avoir un billet puis vous allez avoir une vue excellente. On reçoit Shawinigan. Donc, allez voir ce match-là, chers auditeurs, chers auditrices. À la prochaine et bonne semaine.